This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Aujourd'hui, on va parler d'une vraie révolution sur iOS, pas forcément dont Apple est très content, et puis une fin de saison incroyable pour la semaine de Twitter qu'on vous relate depuis des mois déjà. Un cliffhanger totalement fou. On voit ça tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous, c'est le Rendez-vous Tech numéro 492, je suis Patrick Béja, nous sommes en décembre 2022 et c'est notre dernier épisode avant les vacances, donc il y aura des épisodes spéciaux absolument passionnants qui vont vous occuper quand même pendant les vacances, mais c'est le moment de souhaiter du coup bonne fête, joyeux Noël à tout le monde et en priorité avant tout, à Jeff et Marion qui sont là encore une fois avec moi, fidèles au poste, jusqu'à la fin de l'année. Bonjour à tous les deux, comment vous allez ? On commence par les dames. Marion, comment vas-tu ?
Écoute, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Dernière semaine avant les vacances.
on travaille encore avant les vacances, très bien, très bien. Tu nous disais que tu avais hâte quand même.
Là t'es prête. C'est la première année où je prends une semaine à Noël et là, je vais bien en profiter.
Très bien, très bien. Bon, on est content pour toi et on est aussi content pour Jeff qui est lui aussi en vacances, enfin qui lui est déjà en vacances, mais qui s'est quand même réveillé tôt dans sa Silicon Valley pour participer à l'émission. Donc, merci Jeff.
Bah, c'est avec grand plaisir, comme d'habitude. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez les bleus, merci les bleus. Hein, on est tous... On est tous déçus, mais on est tous contents et
on
fiers.
On est tous
de
fiers quand même. Et je vais vous, ceux qui suivent Twitter le savent, mais mon fils, en fait, on a regardé, je rentrais de Paris, j'ai conduit dans la pluie, sous la pluie, dans le froid, pour arriver à temps pour le match. Et on a regardé le match. Et en fait, mon fils, qui a 5 ans, il aime beaucoup Messi, donc il était pour l'Argentine. J'étais un peu... J'ai failli mon devoir de parent, quand même.
Quand tu vois le match, j'aurais été triste pour l'Argentine s'ils n'avaient pas gagné.
C'est vrai qu'ils ont... Bah, sur la deuxième mi-temps, enfin, la deuxième moitié de la deuxième mi-temps, on s'est réveillé quand même. Mais oui,
ouais,
c'est vrai.
Un peu tard, quoi.
Un peu tard.
Bon.
Et puis, d'une certaine manière, lui, mon fils, pas Messi, mais enfin, Messi aussi, il était content, mais mon fils était content... Donc, d'une certaine manière, j'ai gagné quand même, même si
c'est beau, perd. C'est beau.
Bon, et ce qui est beau aussi...
C'était d'anthologie et on ne pouvait plus respirer, on en tremblait, c'était incroyable.
Donc, et pourtant, je ne suis pas foot. Hein. Je ne suis pas foot.
Ah, moi non
là,
plus.
Je
m'avoue
que, ouais.
J'ai mon jersey bleu que je sors tous les 4 ans. Donc,
C'est ça. Et pourtant, là, je me disais, ouais, Qatar, boycott, on ne regarde pas. Bon, la finale, quand même, faut pas déconner, quand même. Quoi.
On a tous craqué, ouais.
C'est ça.
Allez.
Et vous savez ce qui est beau aussi ? Eh bien, ce qui est beau, c'est les patriotes d'aujourd'hui, à savoir Thomas, qui a rejoint. Lui aussi, il lâche rien jusqu'au bout. Il est là et il a rejoint les patriotes juste avant la fin de l'année. Bravo à lui. Et on a aussi les producteurs de cet épisode, Raph et Olivier Maury, qui sont responsables de ce qui se passe dans cet épisode. Et bon sang, il y a des trucs qui se passent dans cet épisode. Alors, vous savez quoi ? On a déjà fait l'intro, on a parlé de foot, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc, on va enchaîner tout de suite sur les infos à retenir. Les infos à retenir aujourd'hui, vraiment des gros morceaux. Hein. Quand en pré-générique, je parle de révolution sur iOS, qui ne va pas forcément faire plaisir à Apple, même si c'est eux qui le font, contraints et forcés. Ce dont je parle, c'est une... Alors, je pense qu'on peut dire que c'est une rumeur. Mais ça vient de notre ami Marc Gurman, qui travaille chez Bloomberg désormais et qui est sans doute le journaliste, le reporter le plus informé sur Apple, sur la scène tech. Et selon lui, Apple serait déjà en train de préparer un changement à iOS qui autoriserait les App Store tiers, une sorte de sideloading autorisé comme sur Android. Et vous vous dites peut-être, mais enfin, pourquoi est-ce qu'Apple autoriserait un truc comme ça ? Eh bien, ça a à voir avec la législation européenne, figurez-vous. La législation européenne qui... alors, c'est le DSA ou le DMA, je ne sais plus. Lequel des deux qui va... Enfin, ça doit être le DMA parce que c'est le Markets Act, qui va entrer en vigueur dans un an ou deux ans, enfin, en 2024, et qui force... les opérateurs de plateformes, de systèmes d'exploitation, à être ouverts dans certains cas. Et Apple, bon, évidemment, c'est calibré pour toucher Apple. Et du coup, il pourrait autoriser les App Store tiers uniquement en Europe. Donc, il y aurait une version différente de iOS pour l'Europe et ça arriverait en 2024, un petit peu avant l'entrée en vigueur. Je vous avoue que je ne suis pas à 100% sur les dates, mais l'important, c'est ça, c'est que la loi européenne forcerait, et ça arrivera peut-être dans d'autres pays aussi, mais ça forcerait Apple, du coup, à ouvrir son App Store au forceps quand même, parce que clairement, ils n'ont pas envie, ils vont en faire le minimum possible. Et quand on parle de minimum possible, il y a un truc qu'il ne faut pas occulter. Quand on arrive à la fin de l'article, si on n'est pas mort du choc de penser qu'Apple va ouvrir son OS aux App Store concurrents, eh ben, à la fin de l'article, il précise qu'Apple, selon ses sources encore, ferait payer les développeurs pour l'accès à la plateforme, l'accès à iOS, même s'ils ont utilisé un App Store tiers pour se faire installer sur iOS. Alors, je vais rapidement définir ce que c'est qu'un App Store tiers pour ceux qui ne comprennent pas bien. Bah, sur iPhone, vous avez un App Store qui est en fait simplement un programme qui va vous permettre de télécharger d'autres programmes. Et l'un des points d'achoppement du procès entre Epic et Apple et un petit peu la critique de l'ensemble de l'industrie, d'une partie de l'industrie en tout cas, contre le système fermé d'Apple, c'est... Alors, il y a d'une part les moyens de paiement. On est obligé de passer par les moyens de paiement de l'App Store et donc Apple prélève ses 30% à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose dans une app sur iOS. Et l'autre point, c'est les App Store qui sont un petit peu liés. Plusieurs développeurs, dont Epic, qui a un App Store qui connaît un certain succès pour les jeux vidéo sur PC, voudraient pouvoir installer un App Store à eux sur iOS. Et bien sûr, ils n'en ont pas le droit selon les règles d'Apple, évidemment. Et donc, si c'est autorisé, Apple se plierait à la législation européenne, mais continuerait, et c'est le cœur du problème, hein, la question des revenus, bah, ferait payer, on ne sait pas combien, mais ferait payer les développeurs pour l'accès à iOS en dehors de l'installation du programme et de son origine. Donc, je n'utilise pas énormément de superlatifs, mais on est d'accord, si ça se fait, ça serait un changement monumental pour l'App Store et pour le marché du mobile en général, je crois. Jeff, tu avais l'air de dire qu'effectivement, c'est significatif.
Oui, c'est significatif. Et en plus, tu as un gros procès avec Epic Games aux États-Unis où Epic Games a attaqué Apple sur le même sujet. Donc, la question qu'on se pose, c'est avec, donc en Europe, un App Store alternatif qui serait permis, est-ce qu'ils pourront l'éviter aux États-Unis ? Et ça change fondamentalement le business model d'Apple, même s'ils vont essayer en fait de se faire de l'argent quand même. Ça veut dire moins de contrôle, ça veut dire potentiellement moins de revenus, donc c'est énorme.
C'est clairement énorme parce que en plus de ça, il y a un aspect presque, j'ai presque envie de dire religieux, mais c'est l'un des points sur lesquels ils ne veulent pas faiblir Apple, c'est vous devez payer par l'App Store et il n'y a pas d'App Store tiers. Encore une fois, les deux sont un petit peu liés. Mais le fait qu'ils fléchissent là-dessus, pour moi, en plus de toutes les choses qu'il y a à dire, c'est une preuve du fait que, bah oui, les pays, les États ont leur mot à dire. Et quand les États décident quelque chose, eh ben les géants de la tech, qu'ils soient GAFAM ou pas, qu'ils soient Apple ou pas, eh ben ils doivent se plier aux décisions des États. Ou alors ils sortent du marché. Mais enfin, clairement, c'est pas réaliste pour dire qu'Apple sortirait du marché européen, quoi. Marion, est-ce que c'est un truc que tu pouvais imaginer ? Moi, je t'avoue que quand j'ai lu l'article de Gurman, j'étais... Enfin, c'est logique parce que le DSA est passé. Enfin, le DMA est passé. Mais malgré ça, je n'avais pas vraiment imaginé que ça, que, qu'Apple ne trouve pas une astuce. Ou, et ça se trouve, ils en trouveront toujours une. Mais c'est presque inimaginable qu'Apple autorise les App Store tiers sur iOS, quoi.
Pourtant, c'est pas la première fois que ça se produit, notamment avec, avec Microsoft et Windows et les applications préinstallées qui ont dû être un peu plus ouverts à la concurrence après ça. Donc, c'est pas la première fois que ça se produit. Je veux dire, ça dépend vraiment de cette position de monopole ou de market share, enfin de part de marché, marché qu'ils ont. Et donc, du coup, c'est moi, je ne trouve pas ça du tout étonnant. Je me disais, quand est-ce que ça allait arriver plutôt que... Mais ça ne va jamais arriver. C'était obligé que ça passe par là. Maintenant, je trouve ça assez intéressant de suivre comment Apple va le mettre en place et quelles limites ou cadres ils vont mettre en place pour ça. Mais non, je ne suis pas vraiment étonnée, non.
C'est intéressant que tu dises ça parce qu'effectivement, dans le cas de l'Union européenne qui avait contraint Microsoft à vendre notamment une version de Windows sans Windows Media Player, c'était l'une des décisions, et ben Microsoft avait dit « Ok, on a une version sans Windows Media Player qui s'appelle Windows N, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et elle est au même prix que la version avec. Donc, pas de problème, vous avez le choix, mais pour nous, ça ne change rien. » Et là, on sent un petit peu de ça du côté d'Apple qui a décidé ben, « on peut le faire ». Mais visiblement, vous devrez payer quand même. Donc, si vous voulez vous installer par... Alors, peut-être qu'ils auront un moins grand pourcentage, mais encore, je ne suis même pas sûr. Si vous voulez vous installer comme vous voulez. Hein. Mais nous, on prend notre part. Et alors après, va relancer les procédures administratives dans l'Union européenne pour les contraindre parce qu'ils suivent la lettre et pas l'esprit de la loi, machin. Ça ne me surprendrait pas qu'Apple filoute comme peuvent le faire... d'autres sociétés dans ces cas de figure.
Je ne sais pas si l'intention est vraiment de filouter. C'est une interprétation qu'on met sur les actions d'Apple. C'est clair qu'Apple n'a aucun intérêt à perdre du revenu sur les 30% de marge qu'ils se font sur les applications, les abonnements, etc. Et je simplifie parce que ce n'est pas tout le temps 30%, mais... évidemment qu'ils n'ont pas l'intérêt d'un point de vue business de faire ça, puis même d'un point de vue produit, parce qu'en fait, s'ils ont moins d'argent pour développer et penser à l'expérience, ben en fait, il y aura plus d'amélioration ou il y en aura moins, etc. Donc il faut trouver le juste équilibre entre ce qui est juste, la compétition aussi, la concurrence. Garantir la concurrence pour aussi une meilleure expérience pour les utilisateurs, parce qu'ils auront plus de choix, ils seront moins prisonniers, avec les avantages et les inconvénients que ça amène, et garantir leur sécurité. Donc c'est vraiment, c'est pas noir ou blanc, quoi.
Il y a carrément un autre aspect de cette réflexion que tu fais très justement, moi qui me parle encore plus, c'est qu'au-delà du fait qu'il faut qu'Apple gagne son argent, ce qui... Oui, on ne va pas pleurer pour eux, mais bon, ils ne font pas ils font pas iOS par charité, donc OK, ils essayent de récupérer autant d'argent que possible. Et il y a les questions de parts de marché qui sont un petit peu compliquées, parce qu'Apple a un monopole sur le marché iOS qui est... Est-ce que c'est un marché, oui ou non ? Bon, ça, on pourrait en parler, on en a parlé par le passé. Moi, il y a un autre aspect qui m'intéresse vraiment, c'est l'aspect philosophie de design de l'OS. C'est-à-dire quelles intentions on met dans le design de notre OS. Et moi, un truc qui m'a toujours un petit peu gêné dans cette idée qu'il fallait obliger Apple à ouvrir son OS, c'est qu'on a déjà un OS qui est plus ouvert. On a déjà un OS qui existe sur ce segment, c'est Android, et il y en a des dizaines de versions différentes. Et moi, ce qui me gênait avec ça, c'est que on voudrait obliger Apple à se dédifférencier et à prendre les mêmes décisions que Google avec Android. Mais on a déjà un Android. On n'a pas besoin d'un autre Android. Et ça, c'est un truc que j'ai dit pendant très longtemps. Bon, maintenant, j'avoue que je me suis un petit peu adouci sur le sujet parce que c'est vrai qu'Apple est un petit peu inarrêtable. Et je comprends que ça puisse être un problème pour les développeurs qui n'ont pas le choix, pas d'autre choix que de passer par iOS. Et donc, oui, peut-être desserrer un petit peu les taux, ça peut se comprendre. Mais sur l'aspect philosophique, philosophie design, ça continue à me gêner. Mais bon, ça, c'est peut-être une autre question.
C'est marrant. Bah, tu peux le voir d'un autre point de vue aussi. C'est-à-dire, si on pense que Apple ne se différencie avec iOS qu'uniquement parce que le fait qu'ils ont un App Store fermé et qu'ils n'autorisent pas d'être App Store, c'est un peu triste pour iOS ou pour Apple. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, si c'est la seule différence qu'ils ont avec Android, c'est quand même bien réduire la différence entre Android et iOS. Donc, je pense que ils ont beaucoup plus de forces, d'avantages et d'inconvénients. De toute façon, les deux systèmes sont fondamentalement différents et pas que sur cet aspect-là. Non, je ne pense pas que... pour revenir à ce que tu disais, je ne pense pas que c'est se rapprocher forcément d'Android. Mmh. C'est permettre une plus grande compétition qui va bénéficier à l'expérience des membres à un moment donné, parce que la position de monopole dans laquelle ils sont, aujourd'hui, ça ne bénéficie plus forcément autant qu'avant aux utilisateurs. Alors avant, on pouvait arguer de la qualité des applications, la sécurité, etc. Mais en fait, ils sont dans une telle position aujourd'hui qu'ils vont étouffer le marché. Et c'est d'où l'intérêt de protéger la compétition dans ce sens-là et donc l'intérêt des utilisateurs. Mais c'est encore une fois, c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est difficile, il y a des avantages, des inconvénients et il faut trouver à quel moment le monopole est tel que ça va à l'encontre des intérêts des utilisateurs.
C'est vrai. En plus, il y a une question sur comment est-ce qu'ils vont être capables de récupérer leur 30% sur ces app stores alternatifs, puisque aujourd'hui, les applications qui veulent avoir des souscriptions ou
des abonnements.
Des abonnements et des trucs dans les applications sont obligées en fait, d'utiliser les primitives Apple, ce qui permet à Apple donc de récupérer leur mise. Mais si jamais tu as une alternative où tu ne vas par exemple pas payer l'appli et que tu utilises un PayPal ou un Venmo ou l'équivalent européen pour te faire payer, et Apple ne verra pas ça. Et donc,
c'est pour ça que
il y aura forcément une fuite de revenus.
Moi, je pense que quand Gurman dit à la fin de son article et Apple réfléchit à un moyen de faire payer les développeurs pour l'accès à la plateforme, pour l'accès à iOS, ils vont faire un truc du genre « Bon, bah, vous avez tant de revenus, nous, on prend X% à partir de, je sais pas, à partir de 1 million de dollars. Votre revenu sur iOS, on prend tant. Et si vous ne voulez pas faire ça, bah, vous ne pouvez pas utiliser notre OS. »
Et bon, tu peux développer là-dessus en disant que c'est peut-être pas si déconnant que ça si, par exemple, certes, ils rendent pas l'application disponible sur l'App Store d'iOS, mais ils permettent quand même ce store tierce et ils pourront potentiellement bénéficier des données d'usage, de download, enfin de téléchargement, de monétisation que Apple a mis en place avec sa plateforme pour les développeurs. Et donc ça aussi, c'est des outils développés par les équipes d'Apple, ça aussi. Ça se monétise et ça se maintient au jour au jour. Donc après, combien ça coûte et combien ça, Apple va pricer ça?
Je pense qu'ils ne vont pas le faire cheap, tu vois. Cheap, ce n'est pas dans leur vocabulaire.
Jamais.
Mais c'est sûr. Alors, rien ne dit qu'il est interdit de le faire comme ça. Et puis, ça touche aussi à un autre élément de la philosophie de design d'Apple. La raison pour laquelle Apple a tellement de succès, des gens vont dire « Ah, mais c'est parce qu'ils ils sont à la mode et il y a des trucs superficiels. » Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Ça joue. Mais il y a aussi le fait que leurs choix de design font qu'ils ont plus de succès et qu'ils peuvent offrir ce marché aux développeurs. Et donc, le fait qu'ils monnayent, ce n'est pas le fait de maintenir l'OS qu'ils monnayent, c'est le fait d'avoir développé une plateforme qui domine un certain segment du marché des mobiles. Et donc ça, oui, je comprends que ça puisse se faire payer. On va presque commencer à défendre les décisions d'Apple, mais je pense que le jour où ils annonceront cette décision... Je peux vous dire que ça ne va pas passer du tout. Enfin, ça ne va pas passer. Ça va faire beaucoup de bruit et les gens ne seront pas contents. Mais on verra ce que ça donnera. Pour le moment, encore une fois, c'est à l'état de rumeur. Ça semble probable, étant donné les lois qui sont passées dans l'Union européenne. Il y en a peut-être d'autres qui sont en train d'être discuté ailleurs. Et puis, c'est tellement, ça change tellement l'économie d'iOS parce que, accessoirement, en fonction de comment ça se goupille, ça va permettre à d'autres stores et donc d'autres commerces sur iOS de se développer. Et Epic est en embuscade, il va y avoir, on pourrait voir un Play Store de Google sur iOS. On pourrait voir Steam sur iOS, on peut voir même, un Microsoft Store sur iOS. Et ça serait un changement radical, quoi. Bon, on passe au deuxième gros sujet. Et comme vous vous en doutez, c'est encore Twitter et Elon Musk. Et ne zappez pas, parce que je peux vous dire qu'il y a un cliffhanger sur cette fin de saison qui est incroyable après des rebondissements pendant les derniers épisodes. Et ces derniers mois, j'arrivais à suivre chaque semaine et vous résumer un petit peu chaque chose qui s'était passée. Là, il y a eu chaque jour un truc qui était le tin-tin-tin, genre mais incroyable, c'est même pas genre un cliffhanger de fin de saison, c'est chaque scène, il se passe un truc, tu te dis mais mon Dieu, j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver. Et puis après tu te mets la tête dans les mains et tu commences à pleurer à ton bureau parce que c'est assez dramatique. Mais je vais quand même vous résumer en gros et puis on va en discuter parce que comme je disais, le cliffhanger est le plus important, on pourra en parler à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Début de semaine dernière, il y a un compte qui s'appelle Elon Jet qui suit et qui publie la localisation du jet d'Elon Musk, de l'avion d'Elon Musk, un petit peu comme on en a d'autres pour d'autres milliardaires, et qui utilise des données publiques qui sont sur des sites d'aviation qui sont autorisés par la loi et qui les publie sur Twitter. Ce compte ennuyait Elon Musk, qu'il a banni du jour au lendemain, parce que visiblement, son fils se serait fait retrouver par un stalker. Il était dans une voiture absolument pas à côté du jet, donc ça n'a rien à voir, mais il s'est dit, bon, c'est du doxing, on me doxe, et donc je dois fermer le compte. Il ferme le compte du propriétaire de la personne, ce qui déjà, et ça va être un thème dans tout le sujet, va un petit peu à l'encontre de sa politique annoncée de liberté de parole extrême, genre on peut tout dire, sauf si c'est illégal. Bon, bah ça c'est légal, ça lui plaît pas, tout à coup on peut plus le dire. Ok, bon, ça c'est une chose. Il bannit le compte Elon Jet. Même pas quelques jours plus tard, le lendemain, la politique de Twitter, les règles d'utilisation de Twitter disent qu'on n'a pas le droit de partager la localisation d'une personne en live. Donc, tout à coup, les règles de Twitter changent pour accommoder les décisions du gourou. Bon, OK. Sauf que des journalistes parlent de cette histoire, parce que c'est une histoire qui est un sujet d'actualité, encore plus avec l'actualité de Musk et de Twitter en général. Ça ne lui plaît pas. Il suspend, il bannit les journalistes en question, qui, eux, n'avaient pas partagé la localisation du jet, mais il parlait d'histoire et donc il liait au compte où il mentionnait certaines choses. Et donc, c'est des journalistes du New York Times, de CNN, etc. etc. Et il dit « Ah, les lois sur le doxing, enfin, mes règles sur le doxing s'appliquent à tout le monde. Les journalistes, vous n'êtes pas des privilégiés, hein, ça s'applique à tout le monde. » Alors déjà, c'est pas du doxing. Eux n'avaient pas publié quoi que ce soit. Les informations sont disponibles partout, les endroits, les localisations du jet, bref. À partir de là, oui, entre parenthèses, genre le même jour, il a réinstauré 12 comptes de l'extrême droite, genre des fans de QAnon, ce genre de choses, dans sa politique de réinstaurer tout. Bref. Là, il continue à défendre la décision de bannir les journalistes, qui sont des bon, il a le droit après tout, hein, mais c'est quand même un petit peu limite et un petit peu tendancieux, il pourrait le faire, mais le monde se... Ah oui, pardon. Entre-temps, les journalistes ont trouvé une sorte de backdoor pour aller discuter sur un Twitter Space. Et ils étaient en train de discuter. Elon Musk débarque sur ce Space et ils disent « Ah, bah, bonjour Elon, merci d'être avec nous. Bah, du coup, on peut peut-être discuter, on a des questions. » Et ils parlent très poliment, moi je les ai entendus les extraits. Ils parlent très poliment et ils demandent à Elon Musk. Lui, il dit « Ah bah non, vous n'avez pas le droit de me doxer, c'est pas parce que vous êtes journaliste que vous avez le droit. » Bon, ils disent, écoute, on n'a pas eu l'impression de te doxer, comment on t'a doxé ? Bon, mais ils posent une autre question, ils disent, Mais du coup, tu reprochais à l'ancien régime de Twitter d'avoir banni des journalistes pour l'histoire de Hunter Biden, du laptop de Hunter Biden. Vous vous en souvenez, hein, on en parlait il y a une ou deux semaines. Là, en quoi c'est différent ? C'est la même chose, non ? Et là, Musk, je vous passe les détails, il s'énerve, il quitte le space sans dire au revoir, sans rien. Bon, il rage quit, ok, pas de problème. Et le lendemain, Twitter désactive les spaces. Genre, on n'a plus le droit de faire des spaces, sans doute pour corriger le problème de la fameuse backdoor qu'ils avaient utilisée. En fait, c'était un compte sur le service qu'ils avaient acheté avant de l'appeler. Enfin, un ancien service, c'était Periscope, je crois. Bref, ils désactivent complètement les spaces. OK, donc jusque-là, commence à faire bizarre, mais les gouvernements commencent à dire... Monsieur Musk, ça se fait pas. Enfin, pourquoi, comment vous avez banni des journalistes ? Enfin, liberté de la presse, c'est un petit peu différent de rétablir des personnalités, même de l'extrême droite, à la limite. Mais les journalistes, c'est un petit peu. On n'est pas très content, quoi. Alors, ils ont fait des menaces qu'ils n'ont pas, les gouvernements, hein, qu'ils ne peuvent pas vraiment mettre en action, parce qu'ils n'ont pas légalement le droit de faire quoi que ce soit, c'est une société privée. Mais il n'empêche, c'est un signal qui est notable. Et du coup. Musk décide de, peut-être pas pour cette raison, mais j'ai l'impression qu'il sentait que ça se passait pas bien, il décide de rétablir les comptes, toujours en disant qu'ils ont doxed my location, alors que, encore une fois, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, il a fait un sondage pour demander ce qu'il devait faire, et presque 60% des utilisateurs ont dit, bon, bah, il faut... il faut les réinstaurer, ces comptes, parce que ça se fait pas. Ok, bon, moi je suis toujours pas très fan de ces histoires de sondages, parce qu'il fait des sondages qui sont pas du tout neutres, mais peu importe, étant donné son public. Après ça, Twitter commence à suspendre, et là on commence à rentrer dans le vrai n'importe quoi, si on n'y était pas déjà. Twitter commence à suspendre à bloquer les liens vers Mastodon. Vous savez, Mastodon, c'est un rival de Twitter qui est open source, qui a ses problèmes très certainement, mais il commence à bloquer les liens vers Mastodon. Et le compte des règles de Twitter explique, alors, les autres plateformes sociales, on sait que vous y avez une activité, mais maintenant, on n'a plus le droit d'en parler. Donc, tous les liens vers les différentes instances de Mastodon vont être bloqués. Toutes les mentions de Mastodon vont être bloquées, les mentions dans le sens où les mentions de compte, genre si vous essayez de dire « moi je suis sur mastodon.social » en épelant « point », ben, vous n'avez pas le droit. Donc on n'a pas le droit de dire où on est ailleurs que sur Twitter. Et ça compte aussi pour Instagram, Facebook, etc. Mais c'est surtout les concurrents directs genre Mastodon qu'il visait évidemment. Moi, ça m'a rappelé un petit peu, on parlait d'Apple tout à l'heure, ça m'a rappelé la politique d'Apple qui interdit aux développeurs de mentionner qu'on peut payer autrement que par l'App Store. J'ai entendu des comparaisons qui n'étaient pas tout à fait justes. Celle-là me paraît la plus juste, même si le contexte est différent, on pourrait en reparler un jour. Mais c'est la comparaison, c'est le précédent pour moi. Et oui, Twitter, encore une fois, a le droit de, s'il le souhaite, après il y a des questions de compétition, de concurrence, peut-être que le marché des Twitter-like est dominé par Twitter, donc c'est anticoncurrentiel ce qu'ils font, ok peut-être, mais surtout, c'est encore une fois à l'encontre de la fameuse liberté de parole que défendait Elon Musk, la liberté de parole absolue, qui encore une fois, et ça on le disait depuis le début, cette liberté de parole absolue, c'est un mirage total. C'est ce que veulent, c'est ce qu'utilisent les gens pour prétendre, pour justifier de pouvoir dire des choses que, bah, franchement, ils sont pas très cool à dire, voire sont illégales à dire. Et dès qu'il y a un truc qui les arrange pas, et bah, tout à coup, cette liberté de parole absolue, elle s'évapore. C'est l'expérience qui parle, hein. C'est toujours comme ça, ça se passe comme ça à chaque fois. Et une fois de plus, ça se passe comme ça. Alors peut-être qu'il y a des gens qui défendent vraiment la liberté de parole absolue. Généralement, ce n'est pas les types de personnes comme Elon Musk. Peu importe, il annonce, et là encore, le compte de Twitter, des règles de Twitter dit « Eh ben, on n'a plus le droit de mentionner Mastodon. La raison qu'on suspecte, c'est que les journalistes en question commençaient ceux qui restaient encore commençaient à dire bon bah suivez-nous sur Mastodon et peut-être qu'ils avaient peur que l'exode prenne enfin alors que pendant des mois ça n'a pas du tout pris Mastodon. Mais là ils disaient les gens peuvent s'ils se font bannir et qu'ils me doxent ma localisation ils mettent un lien vers Mastodon et les gens peuvent avoir le même type d'information de la même manière, ça me plaît pas. Donc, on va bannir Mastodon. Le fait de bannir des URL, ça ne s'est jamais vu sur les réseaux sociaux. Enfin, oui, pour des trucs genre du contenu pornographique ou du contenu terroriste ou je ne sais pas, ce genre de choses. Mais enfin, bannir les URL d'un concurrent, c'est hallucinant. C'est du n'importe quoi total. Même s'il a le droit, encore une fois. Techniquement, il a le droit. Bref, tollé, encore une fois. Le monde entier se lève et dit « Mais qu'est-ce que tu fous ?» Même ses potes, genre... Jack Dorsey, Mark Cuban, etc. Ils disent, mais ça n'a aucun sens ce qui se passe sur Twitter en ce moment. Pourquoi il fait ça de... Bref. Rétropédalage encore. Twitter Safety, le fameux compte Twitter, supprime les pages qui précisent ces nouvelles règles et dit, on va faire un sondage pour savoir si... on a le droit ou pas de lier vers d'autres réseaux sociaux. Et le oui, enfin en l'occurrence la question est posée différemment, donc le non, on n'a pas le droit de bloquer les autres réseaux, a gagné avec 86,9%. Dans la foulée, Elon Musk, et c'est là qu'on arrive à notre cliffhanger, fait un sondage pour savoir s'il doit rester ou non à la tête de Twitter et il dit « je suivrai les résultats du sondage ». Il s'est terminé avec « oui, tu dois quitter Twitter » qui a gagné avec 57%, je crois, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il va quitter Twitter ? Est-ce qu'il va continuer cette politique complètement débile d'établissement de règles par sondage qui, tu ne sais pas qui répond, tu ne sais pas si les bots sont impliqués, l'audience d'Elon Musk est évidemment super orientée. J'ai oublié de mentionner qu'il veut aussi que les gens qui payent pour Twitter Blue façonnent l'algorithme, c'est-à-dire que les gens qui vont bloquer les gens qui vont payer Twitter Blue vont influencer l'algorithme, mais ceux qui seront bloqués auront moins de visibilité. Quand on sait que c'est le fan club d'Elon Musk qui s'abonne en priorité à Twitter Blue, on voit de quelle manière ça oriente les choses. Là encore, liberté de parole, ok, bref. Peu importe. Et oui, c'est pas un algorithme qui est neutre du tout. Lui non plus, c'est pas parce que c'est juste les gens qui... Et c'est pas parce que on vote sur Twitter que c'est neutre. Évidemment que non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire des décisions aussi importantes avec des sondages sur Twitter, même si les deux derniers sont allés dans la direction que moi je pense ils auraient dû aller, ça n'a aucun sens. Bref, voilà. Elon Musk a fait un sondage et il a dû... le résultat, c'est qu'il doit quitter la direction de Twitter. Est-ce qu'il va le faire ? Oui, moi je pense qu'il voulait le faire de toute façon, et donc son sondage, il ne prend pas grand risque. Mais quand, comment, est-ce qu'il sera encore à la tête de Twitter quand on reviendra dans deux semaines après le break des vacances ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est du n'importe quoi à un point. Enfin, je ne sais pas, Jeff, toi, tu es quelqu'un d'un petit peu plus sérieux. Tu as l'œil de la Silicon Valley. Vous êtes des gens qui regardez les choses de manière rationnelle. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que toi tu penses de ce qui se passe chez Twitter ces derniers jours ? Parce que là, c'est en une semaine que tout ça s'est passé.
Ouais, de toute façon, la Silicon Valley va regarder ce que fait Musk en fonction, dans un prisme qui est-ce que tu es républicain / conservateur ou est-ce que tu es plutôt progressiste / démocrate ? Parce que, en gros, les républicains ou les conservateurs ou les deux voient en Musk quelqu'un qui est beaucoup plus proche en fait d'eux et de leurs valeurs, et donc cette notion de contrôle du message, d'interdire des choses, etc., c'est quelque chose que les républicains n'ont pas du tout de problème, et donc tu as une communauté entière de gens, d'entrepreneurs, d'investisseurs qui sont pro-Musk et qui le défendent. Y compris des copains à moi, ce que j'ai du mal à comprendre. D'un point de vue rationnel, rappelons-nous la discussion qu'on avait eue quand Musk a racheté Twitter, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a payé maintenant, je dirais, à peu près 10 fois le prix de Twitter. C'est-à-dire que Twitter, quand il l'a acheté, valait 15 milliards. Aujourd'hui, étant donné qu'il a ravagé bah, les équipes, il y a beaucoup moins de gens qui vont faire de la pub sur Twitter, donc il a diminué les revenus. Donc je ne sais pas, Twitter, ça vaut peut-être 4 ou 5 milliards. Il essaye encore de trouver des investisseurs à la valeur qu'il a payée lui, à 44 milliards, qui est absolument débile, puisqu'on te demande de payer 10 fois le prix du truc. Et en gros, il a pris
une décision. Il y a aussi le fait que Twitter a arrêté de payer son loyer. Ils ne peuvent plus payer le loyer, visiblement, ou ils ont arrêté pour faire des économies. Effectivement, ils essayent de chercher des investisseurs au prix auquel lui l'a payé, ce qui n'a pas de sens. Et accessoirement, la valeur de Tesla est en chute libre, ce qui, à mon avis, n'a pas rien à voir avec le fait qu'il quitte enfin Twitter. Visiblement, il avait dit à ses investisseurs, moi, je reste 3-6 mois et puis après, je m'en vais. Et le nouveau CEO sera évidemment sous Elon Musk, donc il fera un petit peu ce qu'il dit, mais... Ouais, donc c'est...
Mais le problème, c'est qu'il a, il a... Un, il a fait son caprice, il a dépensé ses sous. Bon, c'est sûr, il avait à l'époque 250 ou 300 milliards de dollars de richesse personnelle, donc il fait ce qu'il veut. Bon, bah, ça a diminué par deux, depuis. Le fait qu'il se paye un caprice, ok, c'est son choix. Le fait qu'il, faille, qu'il fasse ce qu'ils veulent... en termes de politique, produits, etc., bah, il l'a acheté, c'est son choix. Le problème, c'est qu'effectivement, Twitter, c'est une plateforme qui est fondamentale pour la communication et pour, c'est un élément de démocratie. Et donc, là où les gouvernements commencent à dire « mais qu'est-ce que tu fous ?», y a quelqu'un qui a tweeté, je ne sais pas si c'est vrai, que sa décision va à l'encontre des règles de la communauté européenne. Donc les Européens vont commencer à lui dire « tu ne peux pas faire ça ». Et j'imagine que avec Tesla, SpaceX et toutes ces autres boîtes, il va commencer à avoir ces autres investisseurs qui lui disent mais arrête tes conneries parce que on est en train de casser la baraque quoi.
C'est déjà en train de se produire. Hein. Les investisseurs de Tesla sont vraiment pas contents et on les comprend. Enfin, ils ont perdu la moitié de leur valeur.
Et en plus, ces décisions n'ont aucun sens. C'est comme si en gros, tu vois, il se lève le matin, il s'en gratte une et puis il se dit bah tiens, je vais faire ça aujourd'hui quoi. Et donc, il prend décision à l'emporte-pièce, il écoute personne, ou il fait ses polls à la con là, sur son compte auprès des gens qui le suivent.
C'est sondage.
Et donc, c'est sondage. Et ça n'a strictement aucun sens d'un point de vue. Enfin, Elon Musk est quelqu'un qui est superbement intelligent, qui fait des trucs absolument incroyables avec Tesla, avec SpaceX et les autres boîtes dans lesquelles qu'il a lancé. Mais là, c'est de la connerie en barre. Et je ne comprends pas, et j'avais énormément de respect pour lui, mais là, avec ses histoires de Twitter, franchement, c'est un clown. C'est un clown qui ne sait pas ce qu'il fait. Et il n'a pas de plan, il a amené ses copains, il a amené des gens qui travaillent pour lui, qui n'ont aucune connaissance, en fait, des plateformes sociales. Et, je veux dire, c'est ce qu'il disait au début, c'est, j'ai envoyé des trucs, pas sur la Lune, mais dans l'espace, c'est vachement plus dur. Je vois pas pourquoi je serais pas capable de gérer un réseau social. Mais en fait, c'est vachement compliqué. Et aujourd'hui, il semblerait que c'est devenu, lui, le département safety, où il décide ce qui est banni, ce qui n'est pas banni. Donc, je vois pas comment il s'en sort. Et le fait de dire... Ok, je vais abandonner Twitter et puis Twitter va se casser la gueule. Je veux dire, il a emprunté des milliards ou des dizaines de milliards auprès des banques. Les banques essayent de fourguer la dette. On l'a mentionné dans l'épisode précédent. Et puis, il a quand même levé énormément d'argent auprès d'investisseurs. Je pense qu'ils sont fous, des investisseurs. Mais je veux dire, il va se faire planter énormément de son argent personnel si jamais Twitter se casse la gueule.
Ouais. Entre parenthèses, il a revendu encore des actions Tesla. C'est la troisième fois ou quatrième fois depuis qu'il avait dit « Bon, bah là, c'est la dernière fois, j'en vends plus. » Donc, bref. Il a vendu pour 3 milliards d'actions Tesla et c'est la quatrième fois depuis qu'il a annoncé le rachat de Twitter et la troisième fois depuis qu'il a dit « Bon, bah je vends plus d'actions Tesla. » Ce qui est vraiment... c'est même pas surprenant à ce stade, mais... C'est à quel point les décisions, effectivement, se font... Enfin, son histoire de liberté de parole absolue, c'est exactement passé comme tout le monde le pensait, c'est-à-dire que tu dis ça, c'est bien beau comme principe théorique, mais en pratique, bon, bah, les trucs illégaux, ok, tu dois les bloquer. Après, les trucs qui te plaisent pas toi, bah, est-ce que tu vas les accepter ? Non, clairement pas. Alors attends, la pédophilie, le terrorisme, non, bah, ça, on n'a pas le droit non plus. Et puis, ça s'érode petit à petit, et tout à coup, vient en ligne de compte la question de ce que lui va accepter ou pas avec son jouet, et la question de la liberté de parole vole en éclats, quoi. Enfin, liberté de parole absolue, bien sûr. Et le truc, c'est que c'est ce que tout le monde disait depuis le début. La modération, c'est pas facile. Et la liberté de parole absolue, ça n'existe... Enfin, c'est juste pas possible à implémenter. C'est pas possible. Personne ne le fait parce que ça n'a pas de sens. Tu peux pas. Parce que sinon, ta plateforme ressemble à rien. Enfin, c'est pas qu'elle ressemble à rien, c'est que personne n'accepterait une plateforme comme ça. Et oui, donc ce qu'il découvre, c'est ce que tout le monde lui disait depuis le début. Bref, je tourne un petit peu en rond. Marion, est-ce que tu penses qu'un nouveau président, qui serait sous Elon Musk en fait, hein, mais un nouveau manager de Twitter pourrait faire quelque chose de ce qui reste, enfin non, de ce qui reste. Le réseau se porte très très bien encore, hein. On n'est pas à un stade où le réseau est en ruine. Au contraire, il se porte très bien, il est tout à fait rattrapable, le truc. Mais est-ce que tu penses qu'il pourrait faire ce qu'il veut ? Est-ce que ça améliorerait les choses ? Est-ce que ça changerait les choses ? Ou est-ce qu'il ferait ce que Elon Musk lui dit ?
Je ne dirais pas que le réseau social se porte très bien avec tous les clients de publicité qui se barrent.
Ce que je veux dire, c'est que l'activité est encore... Enfin, on est tous sur Twitter, toujours. Aucun d'entre nous ne s'est dit, bon, bah... Là, alors, j'y ai pensé. Hein.
Ah ouais, moi, j'y vais plus. Moi, j'y vais plus.
D'accord.
Ah non, moi, ça fait des mois. Je l'ouvre peut-être une fois par mois par curiosité. Mmh. Mais en fait, je n'ose même plus poster tellement je trouve que maintenant, c'est malsain, quoi. Mmh. C'était le malheur. Déjà, je n'exprimais pas mes opinions d'un point de vue politique, etc. Parce qu'alors là, c'est... Voilà. Mais là, j'ai même plus envie de poster, quoi. C'est tellement toxique. J'ai pas envie.
Mais c'était avant l'arrivée de Musk, ça.
Bah, ça fait plusieurs mois. Ouais. C'est cette année, quoi.
Ouais, d'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec Musk, finalement, ta décision.
Ah, bah, là, je peux te dire que je vais pas revenir.
D'accord. Donc, mais du coup, est-ce que tu penses qu'il serait... Parce que oui, c'est sûr que les annonceurs, bah oui, ils sont partis. Et une bonne partie est partie. Et ça, c'est un gros problème. Hein, the net runs on ads. Ça, c'est ce qu'on dit depuis des semaines et des mois. Mais est-ce que quelqu'un sous Elon Musk pourrait prendre d'autres décisions qui ne plairaient pas à son patron, par exemple ?
Non, bah non, c'est pas possible. Il faut que Elon Musk accepte ça ou donne une marge de manœuvre, et je n'ai pas l'impression que ce soit dans son caractère. Mais les annonceurs sont partis, il a dilapidé son équipe, le moral, j'imagine même pas le moral de l'équipe. Enfin, franchement, mais qui a envie de travailler dans ce climat-là, quoi ? Honnêtement, qui a envie d'aller bosser chez Twitter, là ? Franchement.
Ce qui reste, c'est ceux qui ont un visa H-1B là, qui les oblige à avoir un travail, sinon ils doivent partir du pays.
Ouais, pas, mais moi, c'est pas une bonne motivation pour l'équipe. Là, bon. Je veux dire, c'est là honnêtement, tu l'as dit, toi et Jeff, je sais pas ce qu'il y a de plus à dire. C'est incompréhensible. Il est en train de se discréditer lui, mais plus sérieusement ses autres boîtes aussi, vu l'impact de Tesla. On se dit qu'est-ce qu'il a réussi à faire comme catastrophe avec Twitter, mais qu'est-ce qu'il va faire avec Tesla, puis même le prestige qu'il y avait d'avoir une voiture Tesla avec la personnalité et le génie d'Elon Musk, bah là, comme a dit Jeff, on voit plus le clown qu'autre chose. Donc, est-ce que tu as envie d'avoir une voiture d'un clown ? Je ne suis pas sûr.
Écoute, il y a plein de gens qui ont annulé leur voiture ou leur...
Leur précommande, tu veux dire, leur
achat ? Ouais, leur pré-achat. Et en disant, avec ce que fait Elon Musk sur Twitter, j'annule. Donc, je ne sais pas si c'est énormément de gens qui l'ont fait, mais il y en a qui ont posté sur Twitter, qui ont annulé.
Dans ton entourage, tu en as entendu certains qui avaient
posté. Donc, il y a eu des conséquences claires au niveau économique. Et puis, pour répondre à la question, qui est-ce qui va aller bosser pour... Enfin, je veux dire... Je vois pas. Aujourd'hui, c'est le CEO donc de SpaceX, c'est le CEO de Tesla. Il a des bras droits, donc il pourrait très bien embaucher un bras droit, mais il change d'avis plus souvent que de chemise. Et donc, comment veux-tu gérer une boîte pour représenter un mec qui change d'avis toutes les 5 minutes? C'est pas possible. Parce que ouais. Tu vas te mettre d'accord sur un truc, tu vas commencer à implémenter, tu vas dire, bon, ok, on va mettre en place la politique produit, machin, etc. Et puis le mec, il va changer d'avis. Donc, je vois pas, enfin, depuis le début, je vois pas comment ça peut marcher. Et malheureusement, c'est encore pire que ce que je pensais.
Moi, je vais me faire.
Parce qu'il ne traite même pas sérieusement.
C'est pire que je pensais. Moi, j'ai, sur le Discord, on en parlait. On a un Fred sur le Twitter de Musk. Et ce que je disais ce matin, c'est. Clairement, c'est totalement n'importe quoi. Un point que je ne pensais même pas possible il y a quelques jours, quand on était tombé à des niveaux de n'importe quoi inimaginables il y a quelques semaines, quand c'était déjà absolument n'importe quoi. Ça va de pire en pire. Mais je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable une seconde et dire que je crois qu'il est possible que quelqu'un qui reprenne le poste, alors, il faut qu'il ait du courage et qu'il se mette d'accord avec Musk pour dire « Bon, moi, j'ai le final say sur certains trucs et si t'es pas content, tu peux me virer. Mais tant que je suis en place, bah, c'est moi qui décide. » Évidemment, il fera pas des trucs qui plairont pas trop à Musk, j'imagine. Mais je pense qu'il est possible de remettre le réseau dans une direction profitable. Et il suffit de pas grand-chose, en fait. Il suffit de 3-4 signaux différents envoyés aux annonceurs pour qu'ils reviennent. C'est pas, ils vont pas mourir sur leur colline du principe, les annonceurs, et dire on ne va pas travailler pour cette société. Enfin, on va pas donner de l'argent à cette société. Il suffit qu'il y ait quelques...
Une condition, ça va être l'éloignement d'Elon Musk. Hein.
Bah, si il dit... Enfin, après, tu vois, l'éloignement d'Elon Musk peut-être, mais s'il dit bah, maintenant, on a une politique de modération qui se passe de telle manière, on a implémenté Twitter Blue pour tel et tel truc, mais tu vois... Si la modération, c'est le cœur du problème en fait pour les annonceurs, si la modération se passe correctement, même avec tous ceux qui sont revenus, ils vont dire « bon ben voilà les règles, si vous dites ça, 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 ben, vous sortez », et ben
oui, mais
là,
je pense qu'au-delà de ça, il ne faut pas que ça vienne d'Elon Musk, il faut qu'il arrête de s'exprimer, il faut qu'il arrête de dicter la pluie et le beau temps sur
chez
la
Twitter.
Plateforme. Oui, chez Twitter, il faut qu'il arrête de faire ça, quoi. Faut qu'il se tienne à son rôle de CEO de Tesla et autres. Je pense que il a déjà pas mal de pain sur la planche. Je pense que ça doit bien l'occuper déjà.
Et compagnie et tout.
Et voilà, donc et il faut qu'il laisse la marge de manœuvre à la personne qui va reprendre les rênes et qu'il laisse cette personne s'exprimer pour avoir un nouveau souffle. Parce que là, même au niveau des équipes. Rien que la personnalité d'Elon Musk est super toxique par rapport aux équipes. Donc, il ne s'agit pas juste d'annoncer des mesures, il s'agit de remotiver les équipes, de réenclencher la machine produit et tout ce que tu veux, renouer la confiance avec les annonceurs. Je veux dire, c'est très facile de perdre la confiance des utilisateurs et des annonceurs, c'est très difficile de la récupérer. Hein.
Je suis d'accord, mais moi,
il ne le fera pas. C'est contre sa nature.
Mais c'est ça.
C'est l'homme le plus riche du monde ou un des hommes les plus riches du monde. Il se croit impunitant. Et donc, il ne va pas pouvoir s'empêcher de tweeter ce qui lui passe par la tête, qui ira à l'encontre de ce que son bras droit va essayer de faire.
C'est ça. C'est pas possible.
Il n'y a pas de solution. Ouais.
Sauf peut-être s'il y a pas de peut-être que les banques et les investisseurs récupèrent Twitter et le revendent à quelqu'un d'autre qui le gérera un petit peu mieux, c'est possible. Bon, on verra. Eh ben écoutez, donc ça c'est le le cliffhanger comme je disais. Qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qui est sûr, non, ce qu'il a dit et moi je pense qu'il va s'y tenir parce que de toute façon il a plus envie et il a plus intérêt parce que Tesla se casse la gueule, etc. Je pense qu'il va donner les rênes de Twitter à quelqu'un d'autre. Et on verra si ça se produit là dans une semaine, deux semaines ou deux mois. Mais je pense que ça, c'est inévitable. Maintenant, est-ce qu'il sera toujours derrière en train de lui susurrer à l'oreille et de hurler sur Twitter ? Enfin, hurler sur Twitter, c'est sûr. Hurler sur Twitter à propos des décisions de ce qui se passe sur Twitter, ça, bon, on verra. En attendant, vous savez ce que vous pouvez faire. Dans l'esprit de Noël, c'est déjà être gentil avec vos amis et votre famille. Ça serait super sympa, faire des beaux cadeaux, avoir un bon repas. Et puis, vous savez quoi ? je ne vais pas faire de promo Patreon aujourd'hui parce que vous avez mieux à faire avec votre argent. Une fois n'est pas coutume, essayez de penser à quelqu'un, par exemple, qui est peut-être un petit peu seul ou que vous n'avez pas appelé depuis longtemps, tiens, un ami ou une personne de la famille avec qui vous étiez en froid. Et puis, plutôt que d'aller voir la page Patreon de mon émission, eh ben, allez passer un coup de fil ou envoyer un petit SMS juste pour propager un petit peu l'esprit de Noël. Je pense que ça serait pas mal comme idée.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on va continuer avec les news qui restent dans l'actualité. Quelques petites news d'intelligence artificielle. Do Not Pay, vous connaissez ce service qui vous donne des conseils pour ne pas payer les amendes, les factures, etc. Trouver des petites raisons légales tout à fait dans les clous de ne pas le faire, annonce un chatbot en intelligence artificielle qui va négocier les factures. L'exemple qu'il donne, en fait, c'est avec un opérateur de téléphonie mobile. Il lance un chatbot. Vous savez, tous les sites de support ont des chatbots maintenant. Enfin, on marche par chat et vous parlez avec une personne. Vous pouvez arriver à un moment à parler avec une vraie personne. Et bien là, c'est le bot qui lui parle et qui dit « Alors, j'ai eu des incidents ici, là et là. Moi, je pense à me barrer. Est-ce que vous pouvez me faire une offre ?» Et effectivement, l'opérateur lui fait une offre et il réduit sa facture de 10$ sur, je sais pas, 50, 60. L'intelligence artificielle sert enfin à quelque chose. Autre domaine dans l'intelligence artificielle, Google a confirmé, enfin en tout cas ils ont dit, oui, on a des super bons trucs en intelligence artificielle, mais on ne va pas prendre les mêmes risques qu'une petite start-up parce que notre réputation est en jeu, donc on est beaucoup plus prudent et c'est pour ça qu'ils n'ont pas lancé un produit sous Lambda, mais je pense que maintenant ça va arriver parce que les start-up se lancent comme on en parle depuis un moment. ChatGPT, ça continue, hein, ça ne s'arrête pas. C'est complètement fou, tout le monde est à fond dessus, donc oui, l'intelligence artificielle de chat est là pour rester. Puis dernier sujet, on dit souvent que il faut faire attention avec les bases d'apprentissage des modèles artificiels, des modèles d'intelligence artificielle, parce qu'ils peuvent reproduire les biais qu'on a déjà dans notre société, parce que les productions avec lesquelles on la nourrit viennent de notre société. Ben, y a une expérience qui était intéressante, qui a été faite par une journaliste du MIT Technology Review, où elle a essayé de créer des avatars. C'est Melissa Heikkilä, sans doute d'origine finlandaise, qui a créé des avatars comme l'ont fait un petit peu tout le monde dans la sphère journalistique, sauf qu'elle, elle a des origines asiatiques et c'est une femme, et donc la création d'avatars, ça se passe avec, on lui envoie 10 photos et il vous crée ensuite des avatars faits par intelligence artificielle. Là où ses collègues hommes avaient des exemples d'avatars avec des costumes cravates ou des machins de super-héros, des machins comme ça, elle était les épaules dénudées sur la plupart des avatars, des poses suggestives, parfois même en maillot de bain, etc. Donc elle a été pornifié, c'est le terme qu'elle utilise. Alors, ce n'est pas sur tous les avatars, mais il y en avait quelques-uns, et c'est un bel exemple de la manière dont les biais sociétaux peuvent être produits par des intelligences artificielles aussi. Donc, trois sujets d'intelligence artificielle. Oui.
Petite question, Patrick, parce que tu dis qu'elle avait les épaules dénudées. Moi, je lis 16 topless. C'est plus que les épaules dénudées, là.
Tout à fait. Les exemples qu'on voit dans l'article, en fait, on voit qu'elle est épaule dénudée. Évidemment, ils n'ont pas d'exemple où elle est complètement seins nus. Enfin, on ne voit pas les photos. Mais c'est ce qu'elle dit, effectivement. Elle est vraiment topless. Je ne sais pas si on voyait, effectivement, toute sa poitrine. Mais,
ouais, ça ne m'étonnerait pas.
Ça ne m'étonnerait pas beaucoup, non. Elle dit, oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de nudes, quoi, carrément.
Oui, oui, ça... C'est un très bon exemple de comment tu peux amplifier les biais de la société.
Ouais. Ouais, ouais.
Et pas dans le bon sens.
Donc, voilà pour l'intelligence artificielle. Moi, j'attends que Do Not Pay sorte en français pour réduire mes factures Orange, Free, SFR, tout ça. Je pense que ça pourrait être assez pratique. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font chez Do Not Pay.
T'as pas commencé à utiliser ChatGPT pour qu'il te fasse un résumé des news et du soap opéra d'Elon Musk sur
Alors,
Twitter ?
Alors, malheureusement, je dis malheureusement, peut-être heureusement, parce qu'après, les auditeurs n'auront plus besoin de moi quand ça se fera. ChatGPT n'a pas accès aux informations courantes. Le modèle a été entraîné sur un corpus qui s'arrête en 2021. Et ils n'ont pas encore de moyens d'ajouter des informations au fur et à mesure que l'actualité se déroule. Donc...
Et tu ne lui as pas donné genre, les articles ? Parce que nous, on a testé ça. Ah. C'était trop marrant. J'ai un collègue. Tu sais, nous, on travaille beaucoup à l'écrit chez Alan. Mm-hmm. Et donc, on utilise des issues sur GitHub. Et j'ai un collègue qui a copié mon commentaire, qui a demandé de faire un résumé du point de vue de Marion, tu vois.
Ah oui.
Et franchement, c'est assez impressionnant. Ah ouais, 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 ouais.
Oui, on peut fournir du contenu en plus. Oui, mais tu vois, je pourrais faire des résumés d'un sujet. Mais moi, mon boulot, c'est de voir plein de sujets différents. Donc, c'est un peu plus compliqué. Bah
justement,
encore,
tu pourrais l'alimenter des 4 ou 5 articles sur Twitter et lui demander est-ce que tu peux me résumer les grands points à retenir de ça.
Moi, je pense qu'il faut.
Je sais pas si ça fonctionnerait, hein, mais.
Je pense qu'il faut développer non pas ChatGPT, mais PatGPT. qui ferait en fait, tu vois, le boulot que je fais pour le rendez-vous tech. Mais vraiment, il y a un truc qui s'est débloqué sur l'intelligence artificielle. Je me demande si... J'ai l'impression que dans la Silicon Valley, si on parle investissement et intérêt, c'était un peu dormant ces deux dernières années. Là, j'ai l'impression que ça s'est un peu débloqué entre les images générées par IA et maintenant ChatGPT qui fait autant de bruit. Je me demande si les gens, tout à coup, les VC ne se mettent pas à chercher. Attends, est-ce que tu as une boîte qui fait de l'IA ? Est-ce que je peux investir quelque part ? Non,
non l'IA, c'est un thème dans lequel on a investi, on a regardé depuis 4-5 ans. Et puis, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose... Tout ce qu'on essaye de faire avec les systèmes d'automatisation, etc., c'est basé sur de l'intelligence artificielle. Donc, ça fait 20 ans que j'investis dans l'IA.
Ouais, donc
mais
vous êtes pas réveillé.
Il est vrai que avec ChatGPT, avec les outils de génération, donc c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Là, il y a énormément de plans qui sont en train de nous arriver sur j'utilise ces technologies pour telle implémentation, tel sujet, tel machin, donc appliqué à ce qui est real estate, la musique, etc. Donc tu vas avoir de l'AI génératif pour tout, quoi, toutes les sources. Ouais. Et la plupart de ces trucs ne fonctionneront pas. En plus, je disais un truc, je ne sais pas si c'est vrai, mais en gros, ça coûte à peu près 3 millions de dollars à faire tourner ChatGPT chaque jour pour OpenAI. Bon, ils ont levé 1 milliard, ou plusieurs milliards, donc ce n'est pas un problème. Mais ça coûte une blinde, quoi. C'est pas le genre de truc que tu peux faire tourner de façon gratos, quoi. Donc,
non, mais ils vont pouvoir monétiser à un moment. Ça marche tellement bien que... Enfin, il y a 1000 applications possibles, 10 000. Moi, je t'en sors 14 000 par seconde.
Ah, regarde Google et leurs revenus. Mmh. Les mêmes opportunités sont ouvertes à ChatGPT. Donc, effectivement, il n'y a pas de souci. Mais pour répondre à ta question, oui, depuis 6 mois, tu as une résurgence d'intérêt sur l'AI et une génération de nouveaux trucs qui n'ont aucun sens. Mais de tous les trucs qui n'ont aucun sens, il y en aura forcément un ou deux qui sont intéressants. Donc, nous, on regarde, c'est sûr.
Un petit peu de géopolitique, un tout petit peu. D'abord, la FTC a voté pour bloquer le rachat de Meta par de WeThings par Meta. On parlait du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Bon, bah là, c'est clair que ils y vont partout. Et WeThings, qui est une boîte qui fait de la réalité virtuelle, du fitness en réalité virtuelle, ben, devrait être bloqué. En tout cas, ils vont essayer de bloquer à la FTC ce rachat. Et pourtant, ce n'était pas un rachat énorme, hein, même si c'était un client pour une action de la FTC. Au niveau de la Chine, le gouvernement américain et ses alliés, j'en parle pas énormément, mais je veux le mentionner quand même au moins une fois de temps en temps, continuent à mettre de plus en plus de sociétés sur la entity list, donc la liste des entités avec lesquelles les sociétés américaines n'ont pas le droit de travailler. Et ça commence à vraiment affecter potentiellement à l'avenir l'économie chinoise, à tel point que la Chine a déposé une requête, je crois que j'en parlais la semaine dernière, auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Mais à côté de ça, en plus de ça, le Sénat américain a voté pour bannir TikTok de tous les appareils gouvernementaux. Alors, est-ce que TikTok est un outil d'espionnage du gouvernement chinois ? Le truc, c'est qu'il y a ByteDance qui a accès aux informations de TikTok, mais informations, quelles informations ? On va dire le nom, la date de naissance, oui, mais aussi ce que vous regardez, ce que vous aimez regarder, vos préférences sur TikTok, est-ce qu'ils peuvent en faire quelque chose ? En tout cas, le gouvernement américain a banni les applications TikTok. Encore une fois, hein, des appareils du gouvernement. Donc, les employés du gouvernement qui ont un appareil payé par le gouvernement ne peuvent plus installer TikTok. Il y a quand même des conséquences parce que Taylor Lawrence, qui est une formidable journaliste qui étudie les tendances chez les jeunes notamment et qui s'est fait... D'ailleurs, bannir de Twitter, elle est une cible privilégiée de l'alt-right américaine, un point qui est, enfin, elle est d'une résilience folle. Bref, elle disait, bah, regardez par exemple ce compte qui est tenu par un employé de telle école, qui est un compte sur le sport, les équipes de football américain dans l'État de l'Ohio, c'était une équipe, je crois, en particulier, ben, il ne pourra plus avoir ce compte TikTok parce qu'il est géré par un employé de l'État et il a 300 000 followers pour le compte du gouvernement. Et donc, ça a quand même un impact. Ce n'est pas juste des gens qui ne peuvent pas regarder leur danse mignonne sur TikTok. Et enfin, Spotify a un podcast où ils parlent d'Apple et ils ont financé un podcast où ils expliquent en quoi Apple, c'est injuste. Et on sait que Spotify est dans le camp d'Epic hein, pour les questions de paiement de la taxe Apple des 30%. Ils se battent avec Apple depuis des années. Mais c'est marrant que bah, Spotify fait beaucoup de podcasts. Et l'un de leurs podcasts, maintenant, c'est quoi, comment il s'appelle ? Time to play fair. C'est Spotify for the record, le podcast. Et c'est un petit peu le moment où Spotify fait son lobbying auprès du monde entier pour expliquer qu'Apple, ils sont pas gentils. Je dis pas qu'Apple, ils sont gentils, hein, mais c'est marrant quand même. Voilà pour les quelques sujets politiques. Et puis, un dernier truc, Sam Bankman-Fried, je disais en fin d'émission dernière, ah bah il semblerait qu'il soit inculpé par différentes autorités. Vous savez, c'est le fondateur de FTX, la plateforme d'échange de crypto qui s'est cassé la gueule avec beaucoup de bruit il y a un mois environ. On en parlait la dernière fois que Jeff était dans l'émission d'ailleurs. Et ben, ce qui a suivi, c'était genre tous les jours, il y avait une autorité différente qui lançait un procès contre Sam Bankman-Fried. La SEC, la CFTC, le département de la justice, l'État de New York, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, non. Il est complètement... Enfin, ça, je pense que sa vie est terminée, là. Et clairement, il est dans une situation, on va dire, peu enviable, ce bon Sam Bankman-Fried.
Bah, là, il n'a pas réussi... à sortir de prison, donc il est dans une prison abominable, donc aux Bahamas, en train d'attendre une
extradition.
Une extradition, donc avec un jugement qui est censé être, je crois, c'est le 8 février, donc t'imagines un peu, 6 semaines là-dedans. Et puis de toute façon, il est parti pour passer sa vie en prison.
Il va pas avoir un bon Noël. C'est clair.
Il va pas avoir un bon Noël. Bon, il va essayer de ne pas être extradé.
Extradifié, j'aime bien aussi.
En disant que bah, les crimes, parce qu'il y a une question de quelle législation est applicable, juridiction. Donc, il va essayer de dire bah, la boîte était aux Bahamas, donc je vois pas pourquoi les États-Unis attaquent. Mais en gros, les différentes plaintes contre lui viennent de trucs gouvernementaux, etc. Machin, donc ils vont aller le chercher parce que c'est des milliards qui ont été perdus à cause de lui, quoi.
Et j'imagine que les Bahamas ne vont pas vouloir, là encore, mourir sur leur colline pour protéger SBF. À mon avis, ils vont dire oh, ok. Voilà.
Bah, il y a cette question, en fait, où il avait dit que les gens des Bahamas pourraient récupérer leur argent. Il a essayé, en fait, de mettre ça en place. Donc, il y a une bataille aujourd'hui entre le trustee de la banqueroute de FTX et les autorités bahamiennes. Donc, c'est un merdier sans nom à cause de ce souci de juridiction, quoi.
Oula, ma fille a commencé à pleurer un petit peu. Catastrophe. Donc, je m'étais muté. Ça tombe bien. On finissait l'émission. Donc, nous voilà à la fin de cet épisode. Je vais quand même mentionner The Managerial Revolution. Donc, je ne veux pas commenter sur SBF, mais je crois qu'on a tout dit. The Managerial Revolution, c'est un livre de 1941. D'un auteur qui s'est planté sur beaucoup de choses, mais vraiment, hein, vraiment, il a dit beaucoup de bêtises, James Burnham, mais certains membres de la Silicon Valley y font référence pour une idée qui est intéressante et qui explique un petit peu la situation sociétale dans laquelle on est aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle « The Managerial Revolution », où il pensait qu'on verrait la montée d'une classe sociale qui est celle des managers, qui serait en fait un petit peu détestée par les capitalistes. On est en 41, donc on est dans ce genre de vision. Les capitalistes et les travailleurs, et que ça serait des sortes de personnes un petit peu inutiles qui auraient beaucoup trop de pouvoir. Et c'est une vision qui est un petit peu répercutée par les élites dans certaines parties des États-Unis et peut-être ailleurs. Et je vous invite à aller lire cet article. C'est un article de Vox qui sera dans la newsletter, mais vous pouvez le retrouver. Enfin, on en parle un petit peu à droite, à gauche. The Managerial Revolution, c'est une idée intéressante et ça pourrait un petit peu informer les réflexions dans les mois et les années à venir. Il sera dans la newsletter. Vous pouvez retrouver la newsletter sur notepatrick.com pour vous inscrire, évidemment, comme le reste de la veille, qui est forcément intéressante. Bon, ma femme a l'air d'avoir calmé la petite, donc tout va bien. On peut se dire au revoir dignement pour ce dernier épisode ce dernier épisode normal de l'année. Et comme je le disais, les deux épisodes à venir sont des épisodes spéciaux. Un sur un sujet très tech et un sur un autre truc. Et vous verrez, enfin un truc, il ne faut pas que je dise un truc, ce n'est pas gentil. Vous verrez de quoi il s'agit, j'espère que ça vous intéressera. Avant quand même de vous parler de tout ça, au revoir Marion, au revoir Jeff. Merci d'avoir été avec moi encore cette année. C'était un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Et puis, on repart l'année prochaine encore, hein, j'espère. Marion, où peut-on te retrouver pendant les vacances? Non, pendant les vacances, tu es en vacances. Mais en général, puisque tu n'es pas sur Twitter, du coup.
Alors, si, je suis toujours sur Twitter, donc je regarde un petit peu, j'ai toujours les notifications au cas où si quelqu'un me parle, donc c'est Aizea Design, et puis sinon vous me retrouvez tous les mardis matins, sauf la semaine prochaine, sur Twitch en live à 8h pour le mug. Et puis un grand merci à toi Patrick pour cette année riche en news tech.
Pouf. Ouais, et en émotions. Jeff, est-ce que tu peux nous dire où on te retrouve, là encore, pas pendant les vacances, mais tu es sur Twitter, toi aussi. Tu vois, mais Marion, elle est sur Twitter quand même aussi un petit peu. Hein. Les notifications, elle les a. Elle disait non, je n'y vais plus. Mais...
Tu ne peux pas ne pas être sur Twitter. Donc, jusqu'à ce que je me fasse bannir ou quoi que ce soit. Donc, j'ai créé des comptes Jeff Clavier sur Mastodon et sur cet autre truc, je m'appelle Post.
Ah, t'as prévu le coup, là?
J'ai prévu le coup. Ouais, bah, j'ai pas réussi à récupérer Jeff parce qu'il.
Ah, moi j'ai créé notre Patrick sur Post quand même avant. Sur Mastodon, t'es où?
Sur celui de la Bay Area.
Mais c'est, le, tu, c'est lequel pas. C'est quoi ton adresse, tu sais ou pas?
Je sais même pas.
Oh merde.
J'ai essayé.
Bonne
non,
chance
j'ai essayé.
Pour toi, Jeff.
Attends, Jeff Clavier at sfba.social.
Un truc comme ça, ouais.
Eh ben c'est ça, très bien, follow, voilà, je te follow. Moi, je suis notepatrick@mastodon.social. Et je vous avoue que là, cette semaine, quand il y avait tout le bordel avec on n'autorise plus les liens vers les comptes de réseaux sociaux, machin, je me suis dit, mais ok, bah, okay très bien, au revoir. Moi, je vais commencer à poster vraiment sur Mastodon et je me demande si je ne vais pas commencer à le faire. Donc, allez me suivre, mastodon.social, notepatrick@mastodon.social aussi, parce que à un moment, ça risque de vraiment sauter. Pardon, je t'ai interrompu, Jeff.
Non, non, mais merci d'avoir rectifié mon adresse, moi, c'est bon, que je ne connais même pas. Donc, je n'ai pas encore posté, parce que, bon, pour le moment, je reste sur Twitter. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'attends avec impatience de voir où on en sera pour notre prochain épisode, le premier épisode de l'année. Et puis, faut aussi qu'on commence à réfléchir à ce qu'on va faire pour l'épisode 500, quoi, parce qu'on on y arrive, quoi.
J'ai tellement pas le temps. Il faudrait que je... peut-être que je proposerai aux auditeurs, aux patriotes, tiens, de me désigner pour l'épisode 500.
Un vote.
Ouais, le problème, en fait, c'est que s'ils donnent des bonnes idées, après, il faut que je le fasse. Et mon problème, c'est qu'avec les enfants, tout ça, j'ai pas énormément de temps et surtout d'énergie. Donc, on va y réfléchir. Mais on trouvera un truc sympa, ouais, l'épisode 500. Ou alors, tu sais, si on rate l'épisode 500... Je vais dire, on fera pour l'épisode 512. C'est vraiment tech. Tu vois, là, on
non, mais
est
sinon, tu donnes les résultats du vote à l'épisode 500 et tu dis, durant l'année 2023, vous aurez un épisode qui relève le défi.
Oh,
donne-toi un peu de temps.
Ça, c'est smart.
Jeff n'est pas content. Bon, on va en discuter, en tout cas.
Si, c'est une super idée.
Très bien. Okay,
mais bon. C'est juste que j'aimerais bien être là pour l'épisode 500. Et avec mon calendrier, c'est toujours un peu compliqué.
Ouais, on verra.
Donc, raison de plus pour prévoir ça à l'avance.
C'est vrai. Super. Bah écoutez, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout, y compris sur Twitter, Instagram et mastodon.social. Voilà. Peut-être que je ferai un petit explicatif de comment ça fonctionne Mastodon à un moment. Et vous pouvez aussi retrouver tous mes liens sur NotePatrick.com. C'est hyper facile. Et vous pouvez du coup retrouver, même si Twitter disparaît un jour, vous pourrez me retrouver sur NotePatrick.com et ça, j'en ai un petit peu plus le contrôle. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes fête. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant cette année mouvementée. On sera de retour très bientôt. D'ailleurs, on a les épisodes spéciaux dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis sûr qu'ils vous plairont. Ils sont à la fois intéressants et à propos sur certains sujets. Et on se retrouve dans quelques semaines, même pas trois semaines. Allez, c'est pas beaucoup. On a deux épisodes spéciaux et puis on se retrouve pour 2023 et on verra ce que cette nouvelle année nous réservera. Je vous remercie. Et je vous dis à dans quelques semaines. Ciao, ciao.
Bonne année, grosse bise à tous. Ciao.
Bonne fête.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.